Good Morning Business, le grand débat.
8h41 et comme d'habitude, le débat a déjà commencé parce que les sujets s'annoncent effectivement tout à fait passionnants, Laure.
Aujourd'hui, nos invités dans le grand débat, Paola Fabiani, fondatrice de Wisecom et présidente du Comex 40 au MEDEF. Bonjour. Bonjour. François Chollet, président de Monségur Finance, et Benaouda Abdedaïm. On va commencer avec ces banques centrales. Hier, on a eu la réserve fédérale qui a monté ses taux de 0,25. Ralentissement, mais on continue quand même à monter les taux. Jérôme Powell a été quand même assez clair. Ça va continuer, François Chollet.
Alors écoutez, le marché n'a pas entendu la même chose
que
le commentaire que j'entends depuis ce matin. Le marché a fait exactement l'inverse du discours qui a été établi.
Mais il l'a dit, les marchés comprennent
pas
ce que
je dis. On a eu le sentiment que les marchés avaient entendu un discours, on en dit ça, dovish, mais vraiment extrêmement accommodant. Pourquoi ? Parce qu'il a dit quand même, on arrive un peu au bout de cette séquence de hausse des taux. 25 points de base, il y a encore quelques semaines, on attendait 50. C'était une première victoire pour les marchés qui avaient recalé ses anticipations. Alors, ce n'est pas une surprise, on était déjà prévenu que c'était 25 points de base. Mais il reste une ou deux hausses possibles, puisqu'il avait donné 5,25 comme cible à peu près. C'est ce qu'il y a encore dans le marché. Et donc, ce qui est très étonnant, c'est que le discours d'hier est pris à contre-pied des marchés.
Alors, justement, on va réécouter un extrait des Jérôme Powell pour que les gens qui nous rejoignent, qui ne l'ont pas entendu, se fassent leur propre idée, parce que vous avez raison, on entend tout et son contraire, on écoute Jérôme Powell.
Ça, c'est normal. It's unique. So, I think.
Nous sommes dans une situation unique, sans aucune certitude. C'est extrêmement difficile de prévoir l'inflation. Elle pourrait ralentir plus tôt qu'anticipée, mais le ralentissement pourrait aussi durer plus longtemps. Notre rôle, c'est de la ramener vers nos objectifs, et on le fera. Mais on sera prudent avant de déclarer victoire, d'afficher notre confiance. On a encore beaucoup de chemin à parcourir. Là, ce n'est que la première étape de la désinflation, mais on espère pouvoir le dire bientôt que la désinflation est engagée. Mais ça doit encore se propager à toute l'économie. Ça va prendre du temps.
En fait, chacun peut entendre ce qu'il a envie d'entendre.
Alors ça, c'est à peu près normal quand on discute un banquier central. Si on comprend vraiment ce qu'il veut dire, c'est qu'a priori, ils sont mal exprimés.
Il dit quand même que c'est pas fini, qu'il augmentera les taux tant qu'il le faudra.
Oui, mais entendez bien que par rapport au discours précédent, on a un sentiment un peu différent. Il devient beaucoup plus dépendant des data. Clairement, il a obtenu des résultats. En tout cas, sur les chiffres d'inflation, on a aux États-Unis un dégonflement de ces chiffres d'inflation bien plus puissant que ce qu'on connaît encore en Europe. Là où il y a matière à s'inquiéter, et là où on aurait pu avoir un discours peut-être plus agressif, c'est sur l'inflation cœur, parce que celle-ci, elle a du mal à reculer. Ouais. Et on voit bien que malgré la hausse des taux, la santé de l'économie, notamment au quatrième trimestre aux États-Unis, fait que cette inflation cœur, elle est toujours là. Et malheureusement, c'est plutôt des facteurs conjoncturels qui se détendent que des facteurs structurels de cette inflation.
Paola ou Benaouda, qu'est-ce que vous avez compris ? Est-ce qu'il pivote ou pas ?
Je ne sais pas si c'est un pivot clair, parce que c'est vrai que c'est un discours pas simple. Moi, je dirais plutôt que le point de vue, il y a eu quand même sur la BCE, il y a quatre augmentations depuis juillet. Donc effectivement, l'inquiétude des chefs d'entreprise, c'est effectivement les taux d'intérêt augmentent, comment on va faire pour investir ? Il y a une transition écologique importante, donc il faut innover, il faut se transformer, et donc il faut emprunter, donc. Ça pose quand même cette question. Bien sûr, il faut maîtriser l'inflation et bien sûr, il faut la temporiser. Même s'il y a une petite accalmie, je crois, en France sur la fin, on a une inflation incroyable. Maintenant, comment on va faire pour pouvoir être compétitif, innover, faire cette transition aussi qui est essentielle.
Sur l'inflation en France, c'est 6% contre 5,9. Bon, ça se stabilise, mais... Mais Laouda, vous avez compris quoi, vous ?
J'ai compris, si je puis me permettre, ce qu'a compris l'ancien PDG de Goldman Sachs, Gary Cohn, qui l'a dit hier sur CNBC. Maintenant, tout va dépendre de la perception de la robustesse des données sur le marché du travail. Et de ce point de vue-là, alors chacun aura sa lecture en fonction des enquêtes qui vont sortir actuellement. Il y a d'abord ce qui est frappant et aux yeux des observateurs, c'est ces licenciements massifs dans la technologie qui sautent aux yeux, qui donne à penser au banquier central qu'il est en train de parvenir à ses fins.
Il y a eu le chiffre des emplois hier qui n'était pas très bon.
Exactement. Alors l'enquête ADP qui montre qu'on a une décélération très nette depuis le début de l'année, mais tout cela reste très parcellaire. Donc de ce point de vue-là, il s'appuie somme toute sur des données parcellaires. manière insuffisante. Et encore une fois, si effectivement il y a une décélération du rythme de création et des postes vacants aux États-Unis, il pourra s'appuyer sur ces éléments-là pour dire encore une fois, et c'est terminé, mars, et on repart dans un autre cycle.
Parce que c'est pas simple quand même, François, dans un discours où il parle de désinflation et en même temps il dit quand les banques centrales pensent que l'inflation est terminée, c'est qu'elles se trompent.
Alors là, c'est l'histoire qui le montre, parce qu'on a eu des cycles d'inflation qui ne se sont jamais faits en une fois. Il y a plusieurs phases, et notamment dans les années 70, on a eu vraiment trois phases de pics d'inflation différentes, successives. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement veiller à ce qu'elle ne se réveille pas pour des raisons non maîtrisées. En revanche, la réaction du marché, de mon point de vue, c'est que le marché considère aujourd'hui que c'est fait le boulot. Et donc, que le ralentissement, il est là. On a des chiffres anticipés de croissance économique qui montrent que ce ralentissement est en cours. Effectivement, les tensions sur le marché de travail, on va voir vendredi si c'est avéré, mais on pourrait avoir là aussi un petit soulagement. Et donc, ça voudra dire que quand même, la Fed a fini par parvenir...
Vous oubliez l'indicateur principal, l'inflation. Est-ce que le boulot est fait sur l'inflation? Vous parlez de l'inflation...
Nous, on pense que l'inflation va continuer à baisser très fortement. Voilà. Donc, c'est la conclusion de ce que je voulais dire, c'est qu'on pense que ça va baisser maintenant très fortement. Et ne pensons pas, comme le consensus, qu'il va falloir beaucoup de temps pour que les taux retrouvent le chemin d'un peu plus accommodant.
Tout à l'heure, on avait Christopher Dembick, le chef économiste de Saxo Bank, qui nous disait lui le contraire. Il dit, vu la reprise des prix des matières premières, de l'énergie, la reprise économique en Chine, les pressions inflationnistes vont être plus fortes au deuxième semestre.
C'est vraiment l'écueil de l'année. C'est-à-dire qu'on va avoir une année qui va être partagée dans cette phase où là, on est dans un ralentissement qui est clair et avéré, mais on a un moteur de croissance économique qui est en train de redémarrer en Chine et dont on a du mal à prévoir l'ampleur de ce redémarrage. Il y a eu un excès d'épargne incroyable, comme nous avons pu connaître d'ailleurs en Europe pendant la période du Covid. Cette épargne va arriver dans de la consommation. À quel niveau, à quelle vitesse est-ce qu'on sera capable de tenir cette hausse de consommation? Est-ce que les circuits logistiques, par exemple, on avait eu ces goulets d'étranglement qu'on a connus, etc., est-ce que ça va se produire ou pas? Voilà. À ce stade, nous, on est plutôt dans un premier temps confiant. Ils sont encore dans cette période Covid. Ils ont eu les fêtes du Nouvel An et on n'a pas encore déclenché toutes les hostilités. Mais c'est vrai que c'est l'écueil. C'est parce que là, effectivement, on a un vivier de retour d'un schéma inflationniste qui ne sera pas maîtrisable par les banquiers centraux américains, même européens.
Benouda.
Ce sont les banquiers centraux européens, donc, parce qu'il y a aussi la Banque d'Angleterre, ne vont pas pouvoir chercher midi à 14h. Pour la zone euro, on est à 8,5%. C'est plus de 4 fois le pivot. Sur l'énergie core, c'est-à-dire l'énergie le taux d'inflation sous-jacent, c'est-à-dire lorsque vous excluez l'alimentation et l'énergie, vous êtes à un pic à 5,2%. On voit difficilement cet après-midi...
On peut s'attendre à des discours côté européen qui, eux, ne marqueront aucune nuance. Ouais. Ça va être extrêmement sévère, parce qu'il va falloir qu'elle appuie, en tout cas Christine Lagarde va devoir appuyer très fortement face à ce qu'il se passe et face à ce qu'elle a annoncé précédemment. Encore une fois, c'était un chemin qui était balisé aux États-Unis. On arrive un peu à la fin de ce chemin. On peut discuter des plus ou moins 0,25 terminaux sur la fin du chemin, mais c'est pas vraiment le cœur du sujet. En Europe, en revanche, on est loin d'être arrivé au bout du chemin et c'est encore balisé pour quelques mois.
Voilà, Fabiani.
Ouais, on est rempli en Europe d'incertitudes, je pense, notamment pour les raisons que vous avez citées. L'inflation, effectivement, est pas résorbée. D'un autre côté, l'augmentation des taux, c'est difficile à gérer pour les investissements qu'on a cités. Et puis, la croissance est pas là, quoi. Donc,
sur la consommation, on a quand même des inquiétudes.
On a des inquiétudes. Donc, globalement, quand on met tout ça, je suis pas économiste, mais par contre, d'un point de vue entreprise, d'un point de vue pouvoir d'achat, d'un point de vue emploi aussi, il y a des tensions. Donc, je pense qu'on va essayer de traverser ça et il faut pas non plus que ce soit une gestion trop dure. Donc là, c'est sûr qu'elle va annoncer les points. Qu'est-ce qui va se passer par la suite?
C'est dans ce contexte qu'il va y avoir les assemblées générales d'actionnaires dans quelques semaines, quelques mois, dans lesquelles on va parler de l'augmentation. Enfin, on va voter de manière contraignante ou pas, ça dépend des statuts, l'augmentation du salaire des patrons. Déjà en 2021, plus 20% pour le fixe, il y avait du rattrapage, plus 7% en 2022. On va voir combien va être proposé cette année, mais ça, j'imagine, Paola Fiabini, qu'au sein du MEDEX et au sein du COMEX 40 que vous présidez, on essaie de trouver des éléments de langage pour faire accepter, faire comprendre que dans le partage de la valeur, il y a aussi la hausse du salaire des patrons.
Alors, Moi, je ne suis pas directement concernée en tant que chef d'entreprise sur ce sujet-là, puisque effectivement, on n'est pas soumis à ça dans ma société. Après, par ailleurs, au Comex 40, on est plus sur une logique de partage de la valeur et trouver un système d'équilibre, et notamment le partage de la valeur, qui est un des sujets actuellement qui est traité, notamment au niveau des TPE, PME et des ETI. Pour l'accélérer, on a bien vu que la prime a bien fonctionné, donc il y a cette volonté de partage de valeur.
Maintenant, le gouvernement veut un dividende salarié, vous le savez.
Alors, je pense qu'il y a l'actionnariat salarié qui doit être poussé, et notamment au niveau des PME, c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas, par contre, qu'effectivement la participation, par exemple, rajoute un coût supplémentaire, justement, pour toutes les raisons qu'on a citées déjà avant sur la première partie.
Voilà, mais est-ce que vous discutez de la transparence des salaires des patrons? Est-ce que vous vous dites qu'il faut que vous soyez exemplaire? Est-ce que vous avez ce genre de conversation?
Alors, je pense qu'évidemment, on se dit qu'on doit être exemplaire. Évidemment, on fait de notre mieux et on n'est pas parfait. Mais par contre, je pense qu'on est plus dans une logique comment finalement on redistribue, comment on équilibre et comment effectivement il y a en même temps aussi une profitabilité, parce que sinon tout le monde, plus personne ne voudra devenir entrepreneur. Donc il faut faire quelque part un écosystème intelligent par rapport à ça et qui soit pas tout l'un ou tout l'autre, mais surtout je pense qu'on fait aussi partie d'une génération d'engagement, donc on est convaincu que finalement nos salariés, l'attractivité des talents et notre compétitivité dépend aussi de cette redistribution.
Pour ça, je voulais, on marche un peu sur des œufs quand même là, sur la question de la rémunération des patrons.
On a beaucoup de sujets, parce que la rémunération des patrons, il y a plusieurs statuts de patrons. Il y a des patrons qui sont engagés sur le patrimoine personnel et qui ont une rémunération d'actionnaire et qui fonctionnent avec plutôt le temps long. D'ailleurs, ça se voit dans les entreprises familiales. Quand vous investissez dans l'entreprise familiale, vous avez quand même une prime en termes de performance, parce que vous avez forcément une gestion qui est un peu plus long terme. Et puis vous avez des patrons salariés, ceux-là, peut-être qu'on pourrait imaginer pour eux un schéma de rémunération peut-être calé sur des plans plus longs.
Ah oui. C'est une demande de la F2I.
Oui, mais nous, on connaît ça. Les gérants de fonds, par exemple, aujourd'hui, les bonus, c'est plafonné, c'est redistribué sur plusieurs années, c'est parfois même réinvesti dans des titres des fonds qu'ils gèrent. Donc, on a été capable de réguler ces rémunérations variables.
Pas forcément les grands patrons du CAC 40.
Non, c'est pas forcément les grands patrons du CAC 40. Un gérant de fonds, encore une fois, les réglementations de l'autorité des marchés financiers font que les politiques de rémunération visent plutôt du long terme. Ensuite, le vrai sujet, c'est le partage de la valeur, et vous le disiez très justement, on a cette histoire de dividende salarié. Je suis contre l'appellation de dividende salarié, oui. Mais par contre, la généralisation de la participation, pourquoi à 50 salariés ça devient obligatoire? Pourquoi ça n'est pas pour tous? Vous avez des profits dans une entreprise, il y a une règle de partage de cette participation. C'est quand même le premier levier d'intéressement de l'ensemble des salariés aux résultats directs des profits de la société.
Hausse un peu les sourcils.
Alors moi, je suis vraiment favorable pour tout ce qui est partage de la valeur, soit sous forme de prime, on a bien vu, ça a bien fonctionné, soit sous forme effectivement d'actionnariat salarial. La participation, c'est un systématique. Deux, c'est une source de coûts supplémentaires au lieu d'engager. Et puis, pour répondre à la question sur la rémunération des patrons, effectivement, je suis totalement d'accord. Tous les patrons ne sont pas à prendre dedans là-dessus. Il faut quand même dissocier les choses. Il y a le temps long. Moi, je le partage totalement. On a justement, comme Comex 40, travaillé sur la transmission, le temps long, les entreprises patrimoniales, comment s'en inspirer. Donc, effectivement, je pense qu'il y a cette prise en compte. Et donc, il faut bien dissocier les choses.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Ben Aouda. Je suis désolée. Pour parler du dossier Adani, qui est important en Inde, les titres sont suspendus. C'est un dossier, vous nous en avez parlé, j'ai regardé le 26 janvier. Depuis, c'est passé pas mal de choses.
Oui, Adani, troisième fortune mondiale et surtout pilier de ce projet national indien de devenir le troisième produit intérieur brut mondial en 2025, c'est-à-dire après-demain. C'est un immense opérateur dans les infrastructures. Et là où cela commence à poser problème, d'un point de vue national et international, c'est que l'État indien s'appuie sur le conglomérat Adani et sur un certain nombre de ses opérateurs de tout premier plan pour déployer son immense plan d'infrastructures. Il faut voir que en 2022, les Indiens ont construit 5000 km d'autoroute et ils en construisent 60 km tous les jours. Tous les jours.
Et il faut rappeler que c'est un fonds d'investissement américain.
Oui, alors c'est un vendeur à découvert, Hindenburg Research. Ouais. Exactement. Ouais. Alors on en a fait, c'était visible dès le départ, une affaire maintenant du modèle indien contre le modèle américain.
C'est ça.
Le directeur financier s'est exprimé dans sa première réaction avec le drapeau indien en arrière-plan. Et c'était tout à fait révélateur. Maintenant, hier, la ministre des Finances de Narendra Modi a présenté son budget budget fédéral pour l'exercice 2023-2024. Et on entendait dans l'hémicycle les gens hurler « Adani, Adani ». Pour ainsi dire, vous êtes c'est le représentant de l'oligarchie que Narendra Modi a installé avec ce pouvoir nationaliste hindou.
Donc crise interne aussi.
Exactement. Et 2024, ce sont des élections fédérales. Donc la répercussion de ce château de cartes qui peut-être pourrait s'écrouler, pourrait amener avec lui tout un pouvoir politique, sachant qu'on a quand même entendu le président du Conseil national des infrastructures indien dire que tout ce brouhaha, je le cite, actuel va passer, que les besoins d'infrastructures dans les ports, les aéroports, les routes indiens sont tellement importants qu'on ne peut pas se passer de tous les Adani que compte l'Inde.
Votre chronique du 26 janvier est évidemment retrouvée sur les sites de BFM Business, en replay, en podcast, et vous allez forcément la mettre à jour. Donc toutes les informations sur Adani avec Benaouda Abdelhaim.